Prions ensemble. Père, nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, de toucher notre cœur et notre intelligence, de donner du sens à nos pas. Que ta parole soit une lampe pour nos pas, une lumière sur nos sentiers. Amen. Lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu.
Alors ce matin, par la méditation en présence de tous les protestants du pays de Gex, j'aimerais partager cette démarche qui va du savoir à la foi, de la connaissance au croire, qui est la seule force d'unité de tous les chrétiens. Ce passage de l'évangile de Jean, il est souvent utilisé pour annoncer la bonne nouvelle au sujet de ce que le Christ a accompli de manière décisive pour chacune et chacun d'entre nous, sans aucune exception, sans aucune condition. Je cite de nouveau, Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et si nous le replaçons dans tout le chapitre 3, nous nous rendons compte que cette déclaration est une conclusion de l'entretien si important de Jésus avec ce témoin du Christ qui est Nicodème. Alors voyons le parcours initiatique qui amène Nicodème sur le chemin de la foi. En fait, Nicodème, il est un juif intelligent et honnête, même s'il attend la nuit pour se manifester, car il accepte. Il accepte, contrairement aux pharisiens, il accepte de s'interroger sur la personne du Christ et il souhaite aussi l'interroger. Il est venu dire son admiration au Christ. Et il le considère dans cette proximité de Dieu, puisque il lui dit, Dieu, il est avec toi. Il attend donc que le Christ l'aide à faire quelques pas de plus à la rencontre de Dieu, à la quête du royaume de Dieu. Pourtant, ce rabbi nommé Jésus, il a une réponse pour lui, non seulement brutale, mais aussi très déconcertante, parce que il lui dit, je l'interprète, toi, oui, il est vrai que tu as des connaissances théologiques, Il est vrai que tu as du savoir notable, mais tu tiens toujours un vieux langage, un faux langage. Tu n'y as rien compris, ni à ma personne, ni à ce que je suis venu dire et faire. Et il lui dit, pour comprendre, il te faut naître de nouveau et d'en haut. Ici, il y a un jeu de mots. Avec le mot grec anotan, qui a ce double sens, de nouveau et d'en haut. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout d'une deuxième naissance, mais une naissance autre dans laquelle ni l'homme ni la femme biologique ne peuvent rien. C'est pour cela, verset 6, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Seul le Dieu d'en haut, un être, oui, peut en être l'auteur. Cependant, Nicodème, qui est si intelligent, hein, il comprend ce dernier mot au sens de deuxième, encore une nouvelle fois, à nouveau, et il prouve ainsi qu'il n'y comprend rien. Car personne ne peut comprendre cela naturellement, hein, même avec la meilleure bonne volonté. D'après la connaissance que Nicodème il a acquise pendant toute sa vie, d'après la connaissance qu'il a appropriée, d'après la connaissance qu'il réclame même devant Jésus, il n'y a aucune possibilité. De plus, comme il est un bon juif, il ne croit pas du tout qu'il soit possible de recommencer une nouvelle vie, une vie nouvelle. Pour lui, l'histoire humaine est irréversible et définitive, née pure ou impure, née élu ou païen, née homme ou femme, comme ce matin, née réformé ou ménonite, adventiste ou évangélique. C'est pour cela qu'il répond, comment cela peut-il se faire? C'est impossible. Pour lui, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une seule chance, on n'a qu'une seule identité pour lui, tandis que naître d'en haut implique encore et toujours une transformation, une transfiguration pour passer de la connaissance à la foi, c'est-à-dire du discours au témoignage, de la doctrine à la vie, pour devenir un homme nouveau, une humanité nouvelle, un monde nouveau. Oui, le salut est ainsi possible. En montrant une révélation radicalement différente, Jésus montre aussi, heureusement, comment cette naissance d'en haut peut survenir. Oui, il suffit de se laisser porter par un nouveau souffle. Souffle divin, souffle de création, le souffle totalement gratuit, oui, l'esprit, lui seul peut nous ouvrir les yeux, l'intelligence et le cœur. Comme on chante souvent dans l'Église, Dieu se donne, son amour nous façonne, sa parole ouvre le jour, sa parole est naissance qui nous dit un chemin, mais toujours comme souffle fragile, comme un souffle fragile, pas du tout un ouragan, pas du tout une tempête, pas du tout une violente vacarme, pas du tout une oracle, pas du tout une révélation extraordinaire, ce souffle fragile, ce vent tellement léger, ce souffle de vie, oui, ce souffle léger qui peut nous transformer, qui peut nous permettre encore de naître en haut. Pourtant, ce souffle de vie, c'est aussi la liberté même de Dieu. Nul ne peut le prévoir, ni l'attraper, pas plus que le vent ne peut pas être attrapé par des efforts humains. C'est-à-dire, si Dieu veut nous le donner gratuitement, ce n'est jamais nous qui coincerons ce souffle de l'esprit, jamais nous ne le détiendrons exclusivement à aucune personne, aucune église, aucune communauté. Le moment où moi je déclare, où ma communauté déclare, oui, je comprends Dieu. Oui, notre communauté connaît Dieu. À ce moment-là, Dieu deviendra une illusion de la convoitise de l'homme. Avant de venir en Saône-et-Loire, ici au pays de Gex, j'étais en Saône-et-Loire. Vous savez, en Saône-et-Loire, il y a la communauté. Il y a une communauté de Thésée. Je suis allé assez souvent avec le groupe de jeunes, ou bien tout seul, pour se recueillir. Un jour, j'ai discuté avec un frère qui était un peu, oui, parce que c'était déjà extraordinaire de voir un frère en souffrance. Alors que ce frère de Thésée m'a dit qu'il a un vœu sincère et honnête. Alors qu'il voulait faire, oui, la prière de demande. Mais il m'a dit que au moment de faire la prière de demande, qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout d'abord la liberté de Dieu. Ce n'est pas moi qui va commander quoi que ce soit. C'est lui. Oui, le souffle, c'est la liberté de Dieu. Oui, ce souffle gratuit et libre qui permet d'une vie nouvelle, encore toujours nouvelle, et définitivement incarnée en Jésus, un homme comme nous tous. C'est ce que signifie la fameuse confession de foi de Jean 3:16. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme, quiconque, qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Oui, la spiritualité nouvelle que Jésus introduit dans cet entretien se présente donc comme une économie du don au sens théologique du terme, vision du salut fondée uniquement sur le seul don de Dieu, gratuit, gracieux, produit de la pure grâce de Dieu et de la pleine liberté de Dieu. C'était déjà le cas pour l'histoire d'Israël, issue de l'alliance de Dieu avec Abraham, car Abraham l'a reçu sans autre contrepartie de sa part que l'acceptation de cette alliance. C'était déjà le cas pour l'histoire de Jésus, qui a éclaté la barrière ethnique, sociale, économique. C'est le cas aujourd'hui qui réunit tous les protestants en dehors de la différence théologique et pratique. Oui, ce que Jésus cherche à faire comprendre ironiquement à Nicodème, ce que Dieu cherche ainsi à nous transmettre, est ce passage de l'ancienne à la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le passage d'une théologie de la rétribution, oui, dans laquelle le jugement a la première place, à une théologie de la grâce dominée par l'amour gratuit, le respect mutuel, la reconnaissance de l'autre. Verset 19, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde entier soit sauvé par lui. La vie éternelle, la plénitude de vie, ne peut pas s'obtenir par une simple démarche intellectuelle, ni par une connaissance parfaite de toute la Torah, les principes, les commentaires, ni par une application scrupuleuse des Écritures. Par le passage, Dieu, il nous demande, oui, il nous invite de se laisser accueillir par une démarche purement existentielle d'acceptation du don, une compréhension de soi nouvelle, transformée par la relation unique et privilégiée que tout homme, soit évangélique, soit mennonite, adventiste, luther ou réformé, oui, tout homme peut librement lier avec le Christ. Le chemin qui passe par la mise en doute de mes propres certitudes, la remise en question par mon interlocuteur, Jésus utilise l'ironie pour faire douter son interlocuteur. Pas de démarche spirituelle possible sans remise en question personnelle. Oui, la foi doit questionner mon identité si chère pour moi-même, mais jamais parfaite. C'est pour cela le verset, il nous déclare, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce verset ne concerne pas seulement le signe baptême, mais bel et bien une démarche personnelle de rencontrer avec l'Esprit Saint à travers un voisin justement à côté de vous, à travers d'une voisine, peut-être qu'on se voit rarement, mais un voisin, une voisine qui porte ce souffle léger, ce souffle de Dieu, ce souffle qui m'amène ou bien qui m'envoie ailleurs, que j'attendais pas, mais ailleurs où Dieu nous attend. C'est ainsi que ma nature profonde est changée. Je suis plus le même. Je diffère totalement de l'homme ancien. L'homme ancien qui s'enferme à sa propre vérité. Aujourd'hui, en présence de toutes les petites vérités protestantes, oui, entrons encore en Dieu, pas rester en soi-même, pour que ce souffle nous donne le discernement, pour que ce souffle nous donne la joie dans nos actes, comme dans nos paroles et nos pensées, à la rencontre sans cesse renouvelée à travers mes frères et sœurs. Oui, c'est pas moi qui rencontre notre Seigneur, c'est grâce à un frère et sœur qui m'invite. Voilà, il y a un autre visage, il y a encore une autre possibilité de se convertir. C'est pour cela que j'aimerais terminer ma méditation par un témoignage de Paul, écrit Éphésiens 2, 7, 8. Ainsi, par sa bonté pour nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Écoutez bien, vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Moi, je suis rien. Dans ce procédure de la grâce, c'est pas moi, c'est le don de Dieu, le Dieu qui se manifeste parmi nous, entre nous, à travers nous. Amen.